Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meure instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de Muse. Fin des années 60, le physicien anglais d'origine allemande Herbert Frohlich, grand spécialiste de la physique des particules, tente d'appliquer ses travaux à certains mécanismes biologiques et en particulier aux mécanismes permettant aux molécules d'interagir entre elles au sein d'une cellule pour en assurer le fonctionnement. Alors certes, en quatrième de couverture d'un polar, mon teaser ne vous fera pas rêver et pourtant je vous parle là d'une des grandes énigmes scientifiques du siècle. Dès le début du XXe siècle, en effet, les spécialistes de l'électrodynamique classique et quantique pressentent que des forces physiques régissent ces interactions intracellulaires sans pour autant pouvoir les expliquer ni les prouver. Et le pauvre Frohlich, pourtant nommé deux fois au Nobel, mourra dans les années 90 sans avoir percé ce mystère. Il aura fallu attendre 2022 pour qu'un consortium européen composé entre autres de quatre laboratoires français, dont deux laboratoires montpelliérains, cocorico tout de même, donc l'Institut d'électronique et des systèmes et le laboratoire Charles Coulon, L2C, élucide enfin cette énigme en dévoilant les mécanismes d'interaction intracellulaire entre protéines. Notre invité fait bien sûr partie de ce consortium. Il est chercheur en physique à l'Institut d'électronique et des systèmes de Montpellier. Il est en studio avec nous pour nous expliquer cette petite révolution. Jérémy Torres, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Elle aussi est une énigme pour la science, à mes côtés pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour Lucie, bonjour tout le monde.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à l'Institut Agro et plus particulièrement à la halle hydraulique du laboratoire Géo. Et c'est Gilles Belot qui nous fait la visite. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Jérémy Torres, donc, votre découverte, elle porte sur les forces électrodynamiques qui agissent à longue distance entre les biomolécules à l'intérieur de nos cellules. Alors tout ça, c'est pas simple. Donc déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une force électrodynamique ?
Alors oui, tout à fait. Une force électrodynamique par opposition avec une force électrostatique va être tout simplement une force qui va dépendre de la fréquence. Donc voilà. Une force électrostatique est une force qui est statique en fonction du temps, en fonction de la fréquence. Une force électrodynamique est une force qui dépend de la fréquence.
Merci beaucoup.
Alors ces forces électrodynamiques, quel rôle est-ce qu'elles jouent à l'intérieur de nos cellules ?
Alors on va peut-être utiliser le conditionnel, puisqu'on espère que ces forces jouent quelque chose à l'intérieur de nos cellules. Ça va être là l'objectif justement principal du projet européen Lynx que je coordonne donc au niveau du site montpelliérain. Et on espère que ces forces électrodynamiques vont permettre d'expliquer l'organisation spatiale et temporelle de la machinerie moléculaire à l'intérieur des cellules.
Alors, donc ces forces, elles agissent, donc on a lu votre communiqué, c'est pour ça qu'on arrive un peu. Donc ces forces, elles agissent à courte ou à longue distance. D'abord, donc cette distance, on la mesure comment ? Avec quelle unité ?
Alors, comme ce sont des distances qui sont très petites, on va se concentrer autour d'une unité qui est très petite et qui est de 10-10 mètres et qui va être l'angström. Ou alors, sur le cas des forces électrodynamiques, puisqu'elles sont à très longue distance, entre guillemets, on va utiliser le nanomètre. Donc 10 puissance moins 9 mètres.
Et justement, ces interactions à courte distance, elles sont déjà bien connues. Vous parlez dans vos articles des forces de Coulomb ou encore de Van der Waals. Ces forces-là, qu'est-ce qu'elles régissent de leur côté ?
Alors, ces forces, elles permettent aux protéines, aux molécules, aux biomolécules de s'agripper, de s'accrocher les unes avec les autres et de pouvoir démarrer leur cycle de réaction biochimique.
Donc, concernant les interactions à longue distance, donc je l'ai dit dans l'introduction, elles ont été prédites dès le début du XXe siècle. Comment on pouvait pressentir justement qu'elles existaient puisqu'on ne pouvait pas les prouver par expérience ?
Alors, il faut être un petit peu bon en mathématiques, et donc c'était le cas d'Herbert Frohlich qui a fait ses prédictions théoriques au niveau de la fin des années 60, début des années 70. Travail qui a été repris par mes collègues de l'Université de Marseille, le professeur Pettini. Et en effet, c'est une démonstration théorique ou mathématique de la possibilité d'activer ces forces électrodynamiques. Donc, c'est simplement de la résolution de systèmes, on va dire, classique ou quantique et de la résolution de ces systèmes-là.
D'accord. Et depuis la fin des années 60, début des années 70, on n'en savait pas plus pour l'instant que c'est...
Non, en fait, on a été confronté. Alors, au niveau théorique, ça a eu un impact relativement important. Après, il a fallu le démontrer expérimentalement et la technologie n'était pas forcément prête. Et donc, ça a attendu quelques décennies pour être mise en évidence ici à Montpellier.
D'accord. Et on va pouvoir voir avec vous ce qui a permis technologiquement d'avancer.
Et oui, et d'abord, dans l'idée, avant la technologie, dans votre communiqué, vous expliquez que vous êtes demandé au départ s'il existait d'autres mécanismes que les mouvements aléatoires, qu'on appelle aussi les mouvements browniens. Vous comparez ça à un jeu de billard quand on éclate les boules au départ et qu'elles partent toutes, chacune de leur côté. Est-ce qu'on pouvait envisager que ces rencontres entre protéines, elles soient le fruit simplement du hasard ?
Alors, le hasard va exister, le mouvement brownien va être quelque chose d'important dans les cellules, dans la matière intracellulaire. Ceci dit, maintenant, il y a un consensus qui se dégage au niveau de la biochimie ou de la biologie cellulaire pour dire que le mouvement brownien seul ne peut pas expliquer l'efficacité des rencontres biologiques ou moléculaires, on va dire, à l'intérieur des cellules, puisque chaque partenaire de ces réactions biomoléculaires doit se retrouver au bon endroit et au bon instant pour pouvoir mettre en place ces réactions moléculaires.
Mais alors, du coup, si le hasard joue quand même peut-être un petit rôle, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup d'interactions, en fait.
Alors, il va y avoir, on l'a dit tout à l'heure, hein, les interactions de Van der Waals, typiquement, qui sont les cols, et ou les interactions écrantées de Coulomb, puisqu'on est dans un système liquide avec du sel, on va dire, entre guillemets, pour donner une image très, très simplifiée. L'idée ici, c'est de dire, mais au-delà de ces forces qui sont à courte portée, est-ce qu'on ne peut pas définir des forces qui, elles, sont à longue portée, donc qui vont travailler sur des échelles beaucoup plus grandes et qui vont permettre de, vous m'excuserez l'image, de passer un petit coup de téléphone en disant au partenaire que l'on veut rechercher, est-ce que tu peux venir à ma rencontre ? Et une fois qu'on s'est rencontrés, on va s'agréger, on va se coller avec ces forces électrostatiques pour mettre en place des réactions biomoléculaires.
D'accord, ça, ce serait des mécanismes d'appel en fait entre protéines.
Exactement.
Ça.
Juste une précision d'échelle, quand vous parlez de forces de longue portée entre protéines, on reste au sein d'une même cellule.
Absolument.
C'est à longue distance, mais dans une cellule, c'est
oui,
très
oui,
relatif.
Oui, tout à fait. Alors, exactement. La notion de longue portée est quelque chose à prendre en considération. Alors, pourquoi on dit longue portée ? Parce que les forces à courte portée de type Van der Waals ou de Bayer-Cranté ou liaison hydrogène-hydrogène, ça va être l'ordre de grandeur, ça va être la dizaine d'angström. Et là, on va parler plutôt sur le millier d'angström.
D'accord. Donc aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le vif de vos découvertes à vous. Aujourd'hui, vous avez apporté cette fameuse preuve expérimentale attendue donc depuis quelques dizaines d'années. Vous faites le modeste. Donc vous avez travaillé pour ça sur la signature spectrale des protéines. Qu'est-ce que c'est cette signature ?
Alors la signature spectrale, c'est dans toutes les techniques de spectroscopie, ça consiste à transférer de l'énergie entre un rayonnement électromagnétique et un système oscillant. Alors ici, le système oscillant, ce sont nos protéines qui oscillent à une certaine fréquence. Et lorsque l'énergie de l'onde incidente correspond à la fréquence du système oscillant, on va avoir un transfert d'énergie. Et donc en transmission, il va nous manquer une énergie à une fréquence donnée. Donc c'est cette signature spectrale.
Et d'ailleurs, vous êtes les seuls au monde à savoir faire ça, non ?
Alors on fait ça, oui, on est les seuls au monde à savoir faire la spectroscopie de protéines dans un système aqueux. Pourquoi je précise ? Parce que l'eau est un système qui est extrêmement absorbant pour la radiation terahertz notamment, et il devient très difficile d'être capable d'obtenir un signal électromagnétique dans l'eau à ces fréquences-là. Alors oui, on a mis en place une nouvelle technologie qui permet de faire ceci, mais on n'est pas les seuls à faire de la spectroscopie terahertz, bien évidemment, même de systèmes vivants.
Alors, on va parler un peu plus en détail de cette nouvelle technologie, justement, que vous avez mise au point. Donc, vous avez utilisé une technique originale qui allie la spectroscopie terahertz en solution aqueuse avec la microscopie de corrélation de fluorescence. C'est compliqué, merci. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire ces méthodes, justement ?
Alors, je vais commencer par la FCS, hein, donc la spectroscopie de fluorescence.
C'était pas corrélation plus facile.
Non, c'est pas plus dire. Pour ça qu'on utilise l'acronyme, donc FCS c'est plus facile à dire. Donc c'est une technique qui est développée à l'Université de Marseille par mon collègue Didier Marguet et son groupe, qui consiste à mesurer des spectres de fluorescence de ces protéines et de regarder comment ces spectres de fluorescence vont varier en fonction du temps, en fonction de l'éclairement. Ça permet d'obtenir ce qu'on appelle le coefficient de diffusion et donc la façon dont les protéines se propagent dans un milieu liquide. Et on a utilisé en parallèle donc des techniques de spectroscopie terahertz ici à Montpellier, qui elles vont mesurer justement ces manques, donc ces spectres d'absorption des protéines et de permettre de comparer les échelles de longueur caractéristiques des forces électrodynamiques, aussi bien en SCS qu'en spectroscopie terahertz.
Alors, avec cette étude, vous démontrez donc que l'activation des forces électrodynamiques à longue portée, donc ce dont on parle depuis 2-3 questions, ça ne se produit uniquement que quand les molécules sont entraînées hors de leur équilibre thermodynamique. Je ne vais pas faire semblant de comprendre ma question, je ne la comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ?
Oui, placer un système hors équilibre thermodynamique, c'est simplement lui donner une énergie qui est différente du bain thermodynamique. Alors, si on veut reprendre une image très très simplifiée, je vais mettre des gros guillemets, s'imaginer une baignoire remplie d'eau, ça peut être de l'eau chaude ou de l'eau froide, et à l'intérieur on va mettre une protéine, une grosse balle qui va être elle à une température très différente et typiquement qui va être beaucoup plus chaude. Donc on va avoir une différence d'énergie thermique entre ces deux bains, c'est-à-dire entre la particule, la protéine, et le bain, c'est-à-dire la baignoire, l'eau de la baignoire.
Alors, vous avez été lauréat, Cocorico encore, c'est une émission très Cocorico, mais vous avez été lauréat en 2021 d'un appel à projet européen prestigieux, donc un FET Open, pour le développement d'un biocapteur particulier. Ce biocapteur, c'est précisément ce qui manquait pour expliquer ces interactions à longue distance auparavant ?
Oui, ça fait partie des technologies qu'il faut développer pour pouvoir arriver à faire cette spectroscopie terrestre en milieu aqueux. Donc, c'est un biocapteur qui va mettre ensemble une technologie de pointe au niveau électronique de biocapteur terahertz, notamment développée par une société montpelliéraine qui s'appelle Terracalis, et un système microfluidique qui, lui, va nous permettre de contrôler les flux, et notamment qui va nous permettre de diminuer la quantité de matière aqueuse à devoir traverser par cette onde terahertz, qui n'est pas la meilleure amie de l'eau.
Alors, vos travaux, donc, ils ont un intérêt avant tout pour la connaissance, c'est de la science fondamentale. Mais si on se projette un peu, si on lâche la bride à l'imagination, qu'est-ce que ça permettrait, ces travaux ? Parce que c'est là que ça devient quand même très intéressant et assez fascinant, en fait.
Alors, si on va rentrer un petit peu dans le domaine de la science-fiction, mais ça fait des fois pas de mal de lâcher la bride, justement, on pourrait espérer arriver à développer des techniques d'analyse protéomique, c'est-à-dire arriver à mesurer ou à identifier différents types de protéines dans un bain d'autres protéines, telles qu'à l'intérieur d'une cellule. Tout cela pour arriver à développer de la thérapie ciblée, telle que des immunothérapies. Alors c'est très très amont par rapport à l'état actuel de nos connaissances, mais pourquoi pas imaginer ça dans les prochaines dizaines, peut-être au pluriel, d'années.
D'accord, donc ça veut dire en gros on pourrait cibler donc une protéine liée à une pathologie en particulier et par le biais de cette signature spectrale dire on détruit celle-là, c'est ça ?
Alors,
c'est
exactement ça, mais en espérant que ce soit
réaliste.
Ouais, on en est loin, en espérant que ce soit réalisable.
Alors, je ne sais pas si on est encore dans le domaine de la science-fiction avec ma question suivante, mais vous avancez également que ces résultats pourraient contribuer au développement de l'optogénétique. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez nous préciser ce que c'est que l'optogénétique, mais aussi en quoi la découverte que vous venez de faire peuvent aider à développer cette discipline ?
Oui, alors moi je ne suis pas généticien, donc je vais utiliser des mots de physicien pour décrire quelque chose qui n'est pas du tout mon domaine de compétence, mais on va dire que l'optogénétique, c'est la possibilité, avec des moyens optiques, de déplacer des gènes ou des molécules, avec notamment des lasers. Et donc dans ce cadre-là, le fait de comprendre comment ces forces électrodynamiques peuvent permettre justement à différentes protéines, molécules, biomolécules, de s'approcher les unes des autres, entre guillemets, ça peut être aussi une aide très importante pour ce domaine d'application qui est l'optogénétique.
Alors, on l'a dit, je ne sais même plus d'ailleurs si je l'ai dit en introduction, mais dans le consortium qui réunit, donc je l'ai dit, 4 laboratoires français, un laboratoire allemand et un laboratoire suédois, c'est bien ça ?
Une entreprise suédoise. Un laboratoire suédois, pardon, et une société aux Pays-Bas.
Voilà, il y a une société aux Pays-Bas et donc la start-up dont vous avez parlé, la start-up montpelliéraine, décidément, il fallait que je bute sur quelque chose. Donc la start-up montpelliéraine Terracalis. Quel est le potentiel d'innovation ? Donc si vous avez des start-up avec vous, c'est qu'il y a un potentiel d'innovation. Oui. Donc quel est le potentiel d'innovation de cette découverte ?
Alors pour ces deux entreprises, ça leur permet à elles d'adresser le marché de la santé, notamment avec ce qu'on disait, avec l'analyse protéomique. Alors c'est sur le très long terme, mais ça leur permet de mettre un pied dans ce marché-là et de voir ce qu'il est possible d'en tirer.
Et alors, votre collaborateur, Marco Pettini, donc, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a publié cette découverte avec vous, il parle d'un changement de paradigme en biophysique. En quoi cette découverte que vous avez faite ensemble représente un changement de paradigme ? C'est pas rien quand même.
Non, c'est pas rien. Alors il faut être prudent. C'est un changement de paradigme à condition que ce soit accepté par la communauté. Accepté par la communauté, ça veut dire qu'il y a d'autres équipes par le monde qui soient capables de reproduire ces résultats. Et ça serait un changement de paradigme dans le sens où ça serait la première avancée qui permettrait d'expliquer l'organisation spatiale et temporelle des réactions biochimiques à l'intérieur des cellules.
Vous avez parlé de la reconnaissance de la communauté. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas parlé de votre publication. Elle est quand même assez prestigieuse. Vous pouvez nous rappeler dans quoi vous avez publié cette découverte?
Merci. Oui, c'est dans Science Advance qui est paru en février 2022.
Un grand merci d'avoir pris la peine de vulgariser ce sujet. C'est pas simple, mais c'était vraiment très intéressant.
Merci à vous.
Et donc, on passe maintenant à notre séquence reportage. C'est ton tour, Aline. Où est-ce que tu nous emmènes cette semaine?
Oui, alors, cette semaine, Lucie, on mouille le maillot. Oui, je l'ai gardé. Au propre pour certains, comme vous allez l'entendre, direction le campus de la Gaillarde, où Gilles Belot, professeur à l'Institut Agro en sciences de l'eau, nous fait visiter la halle hydraulique du laboratoire Géo.
Oh, 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 H2O.
Alors c'est une halle hydraulique donc, qui est utilisée à la fois pour l'enseignement et la recherche. Donc elle est composée de trois espaces avec des équipements qui nous permettent d'étudier à la fois tout ce qui est processus d'écoulement dans les rivières, dans des canaux ou dans des réseaux d'assainissement par exemple, ainsi que tous les systèmes de pompage ou les systèmes sous pression.
Là comme il y a des étudiants, on va éviter de perturber leur manip.
Cette halle, elle a une vocation de formation aussi?
Oui, oui, on reçoit à peu près chaque année 500 étudiants de tout le campus Montpellier-Rhin, alors de l'université, mais aussi bien sûr hein, de l'Institut Agro, d'AgroParisTech. On a également des formations professionnelles qui viennent ici.
On est à l'extérieur là du coup, dans une espèce de cour à l'intérieur de la halle hydraulique. Et là, on a une espèce de circuit en béton avec des canaux aussi. C'est quoi ça?
Ah, c'est un modèle réduit de circuit compliqué. Alors compliqué parce que, bon, comme dans beaucoup de systèmes qui distribuent de l'eau, on a des ouvrages de répartition. Et du coup, le système est assez long. Alors ça nous permet de mimer un système réel où on transporte de l'eau, on la distribue à différents usagers. Donc pour ça, on a différents ouvrages. On a aussi des systèmes de mesure. C'est ce sur quoi sont en train de travailler les étudiants. Là, ils font des mesures pour étalonner les dispositifs. Et puis on va avoir des systèmes également de capteurs qui vont nous donner l'information en temps réel, ce qui fait que sur mon smartphone par exemple, je peux voir exactement l'eau qui coule au niveau de ces points de mesure. En fait sur ce dispositif on peut mener des exercices très complexes en termes de gestion de l'eau, puisque on a différents ouvrages de répartition et on va on va constituer des équipes, on va mettre une équipe qui va être chargée de gérer le système et d'autres équipes qui sont chargées de vérifier effectivement il y a bien les quantités souhaitées. Et on va pouvoir introduire des perturbations dans le système et voir comment les étudiants réagissent.
Quel type de perturbation on peut introduire par exemple?
Par exemple, si j'ouvre... venez.
Ah, là on a... une écluse, non?
Oui, c'est ça. Donc c'est une vanne.
Une vanne.
On appelle ça aussi une martelière dans les systèmes d'irrigation localement.
Et donc vous allez fausser tout leur TP, non?
Exactement. Et donc le but du jeu maintenant, c'est de savoir s'ils s'en sont rendus compte et qu'ils arrivent à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé.
Mais là, rien n'est laissé au hasard.
Tout est contrôlé, le système a été dimensionné de façon à ce qu'il ne déborde pas. Ce qui fait qu'on peut laisser effectivement les étudiants exprimer toute leur créativité.
Quand vous avez des grosses pluies, votre système, comment vous le gérez?
Tout est calculé. Le plus gros risque ici est l'insolation, effectivement. Ouais. Quand on a des étudiants au mois de juin, souvent on les retrouve en maillot de bain quand même. Hein.
Comment elle s'appelle cette installation?
Alors pour nous, c'est le canal Paul Riquet. Donc Paul Riquet, le concepteur du canal du Midi. Parce que bon, je dirais pas qu'on a des ouvrages aussi géniaux que ceux qu'il y a sur le canal du Midi, mais c'est en tout cas fortement inspiré.
Et des installations comme celle-là, il en existe beaucoup ou c'est assez unique ici?
Alors, des laboratoires d'hydraulique, il y en a dans toutes les universités, dans toutes les grandes universités qui ont des formations en hydraulique. Par contre, c'est vrai que ce système, notre système Riquet, est extrêmement original. Notamment parce qu'il représente un système de distribution d'eau avec des ouvrages tels que ceux qu'on va retrouver sur les systèmes d'irrigation. Et c'est vrai qu'à Montpellier, on porte réellement cette dimension eau-agriculture.
Alors là, on ouvre une nouvelle porte et une deuxième très grande salle.
Alors là, on est dans l'espace qu'on appelle entre nous Boussinesque. Donc c'est un canal qu'on a acquis avec les crédits de la région et de la métropole de Montpellier. Donc c'est un canal qui est tout vitré, 1 mètre de large, qui nous permet d'avoir des débits très importants.
Combien de mètres de long ?
12 mètres de long. Donc entièrement vitré, de façon à pouvoir utiliser les systèmes de mesure tels que ceux que je décrivais tout à l'heure, donc avec un laser et des caméras qui vont suivre les trajectoires des particules. Donc le fait d'avoir un dispositif de cette taille nous affranchit d'effet d'échelle, hein, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier des processus grandeur nature. Évidemment, quand on est sur des prototypes de petite taille, on a des effets de bord, des phénomènes qui n'apparaissent pas en réalité ou qui sont négligeables dans la réalité. Et notre dispositif permet de s'approcher effectivement des situations réelles.
C'est combien de litres que vous pouvez injecter dans le système ?
On peut aller jusqu'à 160 litres, 170 litres par seconde.
Ça tourne en circuit fermé ?
Bien sûr.
Oui, donc là, on a effectivement le canal qui se remplit d'eau. Ça se remplit en l'espace de quelques secondes.
170 litres par seconde, ça fait des grosses quantités.
Et est-ce que par exemple, sur tout ce qui va être phénomène de crue, c'est des choses que vous utilisez ?
Oui, bien sûr. Disposer d'un laboratoire nous permet d'établir des modèles, de caractériser des propriétés élémentaires qui après sont intégrées dans des logiciels de calcul hydraulique. Et ce sont ces logiciels qui permettent après d'estimer par exemple effectivement l'impact d'une crue. Alors là, je suis en train de monter le seuil qui est situé tout à l'aval du canal. Et vous allez voir, voilà, l'influence de ce seuil remonte jusqu'à l'ouvrage qu'on appelle sous milieu. Voilà, on fait un tsunami, exactement.
L'ensemble de la halle tourne en circuit fermé, j'imagine ?
Oui, oui, oui. Mais avec des réserves d'eau indépendantes, ce qui fait que, par exemple, on peut injecter des particules ici, dans ce canal-là, qu'on va pouvoir suivre après avec nos caméras. Nous allons avoir d'ailleurs un autre étudiant de l'université, donc un étudiant de l'IUT mesures physiques, qui va travailler avec nous sur l'automatisation de ce seuil. L'idée, là, ici, vous voyez, je fais monter et descendre le niveau, par exemple, pour simuler l'influence de la marée sur un écoulement. Bon, ça, je le fais manuellement. À l'issue du stage, si tout se passe bien, eh bien, on pourra le faire de façon automatique. Ouais, dans les applications recherche, vous avez ici... Voilà la situation, le type de situation qu'on va étudier, à savoir un ouvrage qui est sur un cours d'eau ou sur un canal. Et on va caractériser les conditions d'écoulement, notamment en vue d'identifier des conditions d'écoulement qui sont favorables au franchissement des poissons. On travaille notamment sur tout ce qui est continuité écologique des civelles, c'est les alevins d'anguilles. Le fait d'avoir des ouvrages comme ça sur les canaux ou sur les rivières bloque la remontée de ces espèces. Et c'est donc un problème pour la survie de ces espèces. Donc là, ici, les conditions hydrauliques qu'on étudie sont... c'est justement ça qu'on va étudier. Quelles sont les conditions qui sont appliquées aux écoulements et en fonction de la géométrie, en fonction de l'ouvrage. Et ceci permettra après d'établir des règles pour favoriser le franchissement des espèces.
Avant de clôturer cette émission et en l'absence d'Agnès Pesanti qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, je vous annonce le prochain Bar des Sciences qui aura lieu ce jeudi au bar Le Dôme à 20h30. Un rendez-vous qui ce mois-ci sonne comme une incantation puisque nous vous invitons à vous poser la question « Esprit critique, où es-tu ?» Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anna Demelandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.